Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la sociologue Dominique Schnapper, bienvenue à vous. La journaliste du Monde Sylvie Kaufmann, le professeur de relations internationales Bertrand Badie et le directeur du think tank Terra Nova Thierry Pêche. Au sommaire de ce dimanche 24 février, la France et l'antisémitisme, une histoire sans fin et grand débat national, la mi-temps. Le visage de Simone Veil, barré de croix gammée sur des boîtes aux lettres parisiennes. Notre confrère de France Culture, le philosophe Alain Finkielkraut, agressé près de son domicile lors de la manifestation hebdomadaire des Gilets jaunes, sous un flot d'insultes antisémites. 96 tombes juives profanées au cimetière alsacien de Katzenheim, des croix gammées encore et des inscriptions « sale juif » jeudi sur un immeuble du 14e arrondissement de Paris. Semaine nauséabonde, marquée également par le rassemblement mardi soir de plusieurs milliers de personnes dans quelques villes de France pour dire « ça suffit à l'antisémitisme ». Cet antisémitisme français dont on avait appris qu'il prospérait, avec 74% d'actes antisémites en plus en 2018. Antisémitisme français polymorphe. Jacques Attali rappelant à bon escient cette semaine qu'il fallait urgemment réapprendre à distinguer l'antisémitisme ou la haine du peuple juif, l'antisionisme ou le rejet de l'existence de l'État d'Israël et l'anti-bibisme, référence à la politique du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou. Sans oublier cet antisémitisme inclassable et diffus que pointait le dernier rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, publié en mars 2018, et ses 38% de personnes interrogées qui considéraient que les Juifs, je cite, « avaient un problème avec l'argent », entre 18 et 37% d'entre elles pensant également que, je cite encore, « les Juifs avaient un pouvoir excessif dans la société française », deux personnes interrogées sur cinq disant croire au « complot juif mondial ». Sans oublier l'ultime chiffre désespérant, une personne sur 10 dans notre pays disant n'avoir jamais entendu parler de la Shoah, l'antisémitisme, une histoire sans fin. Enregistrement sonore de l'agression d'Alain Finkielkraut à Paris samedi dernier. Et puis vous savez sans doute que mercredi dernier, au dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, le chef de l'État a annoncé un certain nombre de mesures. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Dominique Schnapper, merci encore d'avoir accepté de participer cette semaine à l'Esprit Public. Dans votre livre « La citoyenneté à l'épreuve, la démocratie et les Juifs » publié l'an dernier, vous écriviez que le regard que portent les sociétés démocratiques sur les Juifs est révélateur de leur santé et de leur faiblesse.
Oui, la citoyenneté à l'épreuve, c'était l'idée que l'émancipation donnée en France en 1791, mais enfin l'idée de l'égalité des Juifs avec les autres citoyens, mettait à l'épreuve doublement les Juifs en tant que peuple, c'est-à-dire en tant que définition politique, puisqu'ils devaient devenir des citoyens comme les autres et non plus constituer un peuple à l'intérieur de la société démocratique, et d'autre part du côté de la démocratie, puisque moi j'ai toujours admiré que au moment de la Révolution, on ait pu tirer la logique de la citoyenneté jusqu'à accorder la citoyenneté à une population qui était aussi marginale, méprisée, misérable, en dehors de quelques communautés bordelaises, enfin, laissons dans le détail. Mais c'était vraiment dépasser toute une histoire inscrite dans les structures sociales et dans les représentations d'un monde chrétien pour lequel la judéophobie, pour reprendre le terme de Pierre-André Taguieff, que je trouve juste, s'exprimait en termes religieux. On était dans une société pétrie de religiosité chrétienne dans laquelle le juif était à la fois marginalisé, méprisé et misérable. Et donc, en poussant jusqu'à son terme le principe de la citoyenneté, les révolutionnaires ont accordé, avec un peu de difficulté, ça n'a pas été très facile, mais enfin, ils ont accordé la citoyenneté. Mais nous savons que les lois ne suffisent pas à faire les sociétés, et donc les épisodes divers dans les pays démocratiques des relations avec les Juifs sont un espèce de signe de l'état de la démocratie. Quand la démocratie est assez forte, elle contraint les sentiments spontanés qui continuent à exister dans la société. Elle est contrainte au sens politique, c'est-à-dire que les gens peuvent ne pas aimer les Juifs en tant que tels, mais quand ils le font chez eux ou de manière mondaine ou personnelle, c'est pas un problème politique. Et les moments où les Juifs constituent un problème politique, un débat politique, ce que les anglophones appellent political issue, sont des moments de crise de la démocratie. Et ça, l'histoire des différentes démocraties le montre très bien. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre.
C'est ce que vous avez lu aussi, Bertrand Badie, dans les événements de cette semaine. Ce sont les faiblesses de la démocratie.
Certainement les faiblesses de la démocratie, mais pas seulement de la démocratie. C'est-à-dire qu'on est dans un temps redoutable, qui est un temps de repli identitaire. On est dans un temps où on réinvente la nation, non pas comme base de conquête de nouveaux droits, non pas comme émancipation, mais comme tout son contraire. C'est-à-dire comme protection face à cette grande peur qui nous envahit, qui envahit en tous les cas notre continent et pas seulement celui-ci, qui est la peur de la mondialisation. Cette peur de la mondialisation, elle n'est pas étrangère à l'ignoble et aux ignominies que nous percevons en même temps, parce que ce sont les vieux thèmes de cosmopolitisme, de complotisme, de réseau, qui à nouveau refont surface. C'est-à-dire, je pense que cette pathologie profonde, elle se construit là où non seulement la démocratie va mal, mais où la société va mal, c'est-à-dire où la société ne se voit que comme instrument de repli. Et quand une société se voit comme instrument de repli, elle se voit à travers son identité, elle construit une identité qui exclut. Tout ce que vous nous avez rappelé il y a un instant, il y a aussi, moi ça m'avait énormément frappé, ces députés noirs du Parlement français qui ont reçu des menaces de mort, qui ont reçu des injures parce qu'ils n'étaient pas justement de cette France identitaire et tout ce qui s'ensuit. Donc ce qui me fait peur en ce moment, c'est que dans cette grande peur de la mondialisation, nous sommes en train de reconstituer les exclusions et de reconstituer les boucs émissaires.
Oui, c'est une autre forme de dire que c'est une crise de la démocratie. Car la démocratie, ça consiste à contrôler les replis identitaires et à construire le commun de la citoyenneté.
Bien sûr, sauf que ça va au-delà des dysfonctions des institutions démocratiques.
Ah oui, mais c'est au sens général. C'est pas seulement les institutions, c'est l'ensemble de la société démocratique.
La peur de l'autre. On revient à des pathologies qu'on a connues dans notre histoire et qui ont eu des résultats encore plus dramatiques, nous le savons tous, qui est la peur de l'autre, qui est l'altérophobie, en quelque sorte.
Alors, au dîner du CRIF cette semaine, le chef de l'État a parlé d'un triptyque. Il a dit « Désormais, il faut nommer, poursuivre, punir Thierry Pêche ». Pourquoi est-ce que le chef de l'État a commencé par dire « nommer » ?
Parce que sans doute, il pense qu'on a fait un peu un déni ces dernières années, qu'on est passé à côté, pudiquement, d'une réalité. Je crois que c'est un peu vrai. Je vais y revenir. Mais je pense que nommer, poursuivre, punir ne suffit pas. Il faut aussi faire de l'histoire. Et on ne fait pas assez d'histoire. Et plus les leçons et les expériences s'éloignent, plus la communauté politique est fragile. Parce qu'elle ne tient plus qu'au fil des livres et des savants. Et donc il faut faire de l'histoire. Bon, nommer. En effet, on a nommé un antisémitisme traditionnel d'extrême droite en France, et on a mis plus longtemps à nommer d'autres formes d'antisémitisme qui se développaient notamment dans les quartiers ZUS, QPV, enfin vous savez, différentes nomenclatures, et qui devenaient très inhospitaliers aux Juifs. On a eu du mal à dire ça. La gauche en particulier a eu du mal à reconnaître ça. Par ailleurs, la gauche n'a pas fait l'inventaire de sa propre histoire avec l'antisémitisme, qui est pour une part une grande et belle histoire et qui est pour une part une triste histoire. Je rappelle tout de même que au XIXe siècle, l'anticapitalisme a fait un bout de chemin avec l'antisémitisme. Marx lui-même, dans la question juive, expliquait que l'argent était le dieu jaloux d'Israël, que le judaïsme était animé par le besoin pratique et le gain individuel. Donc cette idée qu'au fond, le judaïsme serait intrinsèquement lié à l'argent et au pouvoir, au-delà même des fidélités à la nation, à la patrie, etc., est une idée qui a eu sa place dans l'histoire de la gauche. Et donc la gauche a eu du mal avec ça. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, parce qu'on pourrait faire l'inventaire de tous les antisémitismes, et ils sont nombreux, vous l'avez dit, polymorphes, et vous avez raison, il y en a quand même deux aujourd'hui qui sont très présents et qui suscitent beaucoup de peur chez les Juifs de France. Il y en a un qui est celui dont je viens de parler, qui est un antisémitisme qui s'est développé dans le sillage de réactions identitaires islamiques et de préjugés extrêmement connus. Et puis il y en a un autre qui est lié au moment populiste des démocraties européennes, et singulièrement en France, à ce moment des gilets jaunes, ce qui ne veut pas du tout dire que les gilets jaunes soient antisémites, ce qui serait faux, ce qui serait absurde, la plupart d'entre eux n'ont rien à voir avec tout ça. Mais ils ouvrent une voie nouvelle à l'idée qu'au fond, dénoncer les élites, c'est un peu dénoncer les juifs. Et que demander la démission de Macron, c'est un peu demander la démission de quelqu'un qui a bossé, qui a travaillé, pardon, à la banque Rothschild. Tout ça fait système, résonance dans l'imaginaire et les généalogies longues, si vous voulez, de l'antisémitisme. Donc, cette jonction qui pourrait se faire dans les rues, dans ce moment populiste entre un antisémitisme, teinté d'islamisme et un antisémitisme anti-élite populiste est assez effrayant. Un dernier mot, Émilie, si vous le permettez, sur les cycles de l'antisémitisme français. Il n'est pas simplement polymorphe, il est alternatif et intermittent. J'ose à peine en parler devant Dominique Schnapper qui est ici, qui connaît cette histoire beaucoup mieux que moi, mais il y a, pour le dire rapidement, des moments particuliers de l'antisémitisme français, ou au contraire de l'ouverture au judaïsme. On a rappelé le moment 1791, qui est le moment glorieux, je dirais, celui dont on peut s'enorgueillir, d'ouverture à la citoyenneté pour tous, le moment républicain de cette histoire. Et puis il y a l'affaire Dreyfus, qui est une grande histoire dans l'histoire politique, un grand moment dans l'histoire politique française, puis le moment Vichy, et après, qu'est-ce qui se passe ? Nona Meyer rappelait récemment qu'un sondage IFOP réalisé en 1946 arrivait à cette conclusion. 30% des Français alors considéraient que les Juifs étaient des Français comme les autres. Aujourd'hui, on est à peu près à 90%. Donc voyez, on a fait tout un chemin. Mais il y a aussi les chiffres que vous avez rappelés. C'est-à-dire que tout en considérant que ce sont des Français comme les autres, beaucoup de Français pensent que tout de même, ils ont un peu trop de pouvoir, un peu trop d'influence, etc. Donc on est peut-être au début d'un cycle triste, d'un de ces cycles qu'on a connus dans le passé, d'antisémitisme beaucoup plus fort. Et c'est notre rôle, je crois, de se tenir auprès des Juifs de France pour leur dire la solidarité de la nation et de réagir très rapidement avant qu'il soit trop tard.
Un nouveau cycle, dites-vous, Thierry Pêche, qui pose la question de la réponse politique. Sylvie Kaufmann, on a entendu le chef de l'État dire que le temps des actes tranchants était venu avec un certain nombre d'annonces. Une loi pour lutter contre la haine sur Internet et les réseaux sociaux dès le mois de mai prochain. Une mesure symbolique. La France va adopter dans ses textes de référence une redéfinition de l'antisémitisme élargi à l'antisionisme. Une responsabilisation des plateformes numériques, etc. Est-ce que c'est ça, en effet, une réponse tranchante ? Est-ce que c'est la réponse politique suffisante au contexte ?
Je crois qu'il faut une réponse politique, c'est évident. Après, est-ce qu'elle va prendre les formes qui ont été avancées par le président Macron ? Je ne sais pas, ça va être débattu. Il y a des choses, il y a des avis différents sur les propositions qu'il a faites et qui méritent vraiment d'être discutées. Comment est-ce qu'on définit l'antisionisme, par exemple ? Est-ce qu'on revient sur, est-ce qu'on reprend un travail législatif ? Ou est-ce que le juge peut être habilité à trouver les critères lui-même, est-ce que sur cet antisionisme antisémite ou quand est-ce que l'antisionisme est ou n'est pas antisémite, voilà. Ensuite, il y a tout le débat sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que bien sûr, on peut réguler et il faut réguler. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, c'est le message qui est le problème, c'est pas le messager. Et là, bien sûr, il y a un effet multiplicateur massif d'Internet et des réseaux sociaux. Mais au départ, le problème, il est quand même la formulation du message qui est amplifié par les réseaux sociaux. Donc, je pense que, bien sûr, il y a une réponse politique, mais il y a une réponse populaire aussi qu'il faut avoir. Et je voudrais juger un peu cette montée de l'antisémitisme à l'aune de la faiblesse de nos réactions depuis 2001, disons. Puis on va sans revenir plus loin, on pourrait bien sûr, mais là je vois des moments qui montrent à quel point notre seuil de tolérance finalement s'est élevé, c'est-à-dire à l'égard de l'antisémitisme. Si on prend 2006, le meurtre d'Ilan Halimi. Je me souviens personnellement avoir emmené mon fils, qui était à cette époque jeune adolescent, à la manifestation. Je lui ai dit, tu vas voir, dans une société démocratique, quand il y a une attaque de ce genre-là contre une communauté, la société se rassemble et réagit nombreuse. Et j'ai voulu lui montrer l'exemple. Et on est arrivé là, et j'avais honte. Parce que il y avait très peu de gens, et c'était essentiellement des gens de la communauté juive. Voilà. Et donc, c'était tout à fait le contre-exemple, et j'étais très étonnée de la faiblesse de cette réaction. 2012, Mohamed Merah, Toulouse. S'il y a un crime antisémite, c'est vraiment celui-là par excellence. On n'est pas dans l'antisionisme, on n'est pas dans tout ça, on est dans l'antisémitisme pur des enfants d'une école juive assassinée. On n'a pas eu la réaction appropriée, proportionnée à la dimension de ce crime. Donc notre tolérance était déjà émoussée, si vous voulez.
Et cette semaine,
2015, l'hypercachère. La réaction massive. Mais comme dit Delphine Orvillère, on peut se demander s'il n'y avait pas eu Charlie Hebdo, est-ce qu'il y aurait eu une telle réaction ? On ne le saura pas, mais le fait de se poser la question déjà en dit long. Et maintenant, vous voyez cet enregistrement que vous avez passé tout à l'heure, qui est encore pire que quand on sent l'image, d'ailleurs c'est la puissance de la radio, c'est nouveau. C'est nouveau parce que on revient à cet antisémitisme populiste, traditionnel, français, qu'on croyait disparu. Bien sûr, il n'avait pas disparu, mais il y avait le verrou de la Shoah. Et il semble que ce verrou ait sauté, puisque ces inhibitions, maintenant, ont explosé et on peut se permettre des choses comme ça. Donc, il y a eu une manifestation, il y a eu plusieurs manifestations mardi soir, cette semaine. Il y avait du monde sur les photos, ça faisait de l'effet. En réalité, il n'y avait pas beaucoup de monde. Là aussi, j'étais déçue. Donc, je crois que et beaucoup de gens ont remarqué qu'il y avait peu de jeunes, notamment. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut prendre très sérieusement en compte. Est-ce que la solution, c'est l'éducation ? Certainement. Enfin, mais nous avons un vrai problème, je crois, dans la réaction de notre société à ce phénomène.
Un verrou a sauté, Dominique Schnapper disait à l'instant Sylvie Kaufmann.
Oui, je crois qu'elle a raison. J'ai toute une série de réflexions à faire. D'abord, l'affaire Finkielkraut qui a mis au centre des débats publics. Mais le tournant, vous l'avez dit, c'est l'année 2000. C'est à partir de l'année 2000 et les chiffres. Alors, on dit 74% de plus que l'année dernière. Mais il y a eu des chiffres bien plus élevés au cours des années qui ont précédé. Or, si on avait voulu savoir, on savait. Les territoires perdus de la République, c'est 2002. Le rapport Aubin qui montre comment des directeurs d'établissements ne peuvent plus garantir la sécurité des enfants juifs, c'est 2004. À l'époque, nous avions fait un petit livre de commentaires sur le rapport Aubin. Personne n'en a entendu parler et le ministre de l'Éducation nationale l'a mis dans un tiroir. Donc, si on avait voulu savoir, on aurait su. Alors, l'incident, puisque heureusement, ça n'est qu'un incident, d'un intellectuel médiatique remet ça au centre de la réflexion. Mais en réalité, l'histoire a commencé beaucoup plus tôt. Et sur l'histoire, vous l'avez dit très bien, quand dans l'histoire de France, telle qu'elle est enseignée aux enfants, les Juifs apparaissent à trois moments. L'émancipation, ça va vite, bon. Et puis l'affaire Dreyfus et la Shoah. Or, la présence juive, la culture juive, l'histoire juive fait partie de l'histoire française depuis avant Jésus-Christ. Et on a fait au musée d'art et d'histoire du judaïsme un colloque là-dessus, comme les juifs comme point aveugle du roman national dans les lieux de mémoire. Il n'y a rien sur la culture juive, les débats du Moyen-Âge qui ont été des débats intellectuels de très haut niveau entre le christianisme. Donc, je précise que je ne dirais pas les juifs de France, les juifs français. Les juifs de France, ça implique qu'il y ait les juifs qui se trouvent en France, ce qui est un petit peu...
C'est dans votre livre, d'ailleurs, vous écrivez juifs sans majuscule.
Oui, alors ça, c'est un choix, évidemment. C'est un choix personnel, je le dis clairement.
Un choix signifiant.
On fait le choix. Hein. Mais je voudrais juste aussi ajouter un point sur les réactions, je suis tout à fait d'accord. Sur les courants, je crois qu'il y a trois courants en ce moment qui sont en train de converger. Il y a le vieil antisémitisme. Bon, qui imprègne la société française et qui à certains moments sont un problème politique, à d'autres moments ne le sont pas, et qu'on retrouve Soral, Dieudonné, enfin c'est disons d'extrême droite ou de droite, comment. Il y a un autre courant depuis 68 qui est une partie de l'extrême gauche, qui au nom des droits des Palestiniens tient des discours qui remettent en question l'existence même de l'État d'Israël. Tout le monde est d'accord, bien entendu, on peut critiquer le gouvernement israélien, mais la remise en cause de l'existence d'Israël est portée par eux. Et puis, il y a la population musulmane, où toutes les enquêtes le montrent, les préjugés à l'égard des Juifs sont systématiquement de 10 à 20 points supérieurs chez les musulmans que dans la population en général. Et alors, ces trois éléments se conjuguent, se multiplient, convergent, et quand les institutions sont affaiblies, ce qui est le cas aujourd'hui, eh ben elles s'expriment et elles s'expriment librement. Et j'ai été, comme vous, très sensible à la faiblesse relative des réactions, mais j'ai été aussi sensible au fait que ce qui a vraiment bouleversé la France, ça a été le mois de novembre où on a entendu régulièrement à la radio « ça aurait pu être moi ». C'est terrible ce qui s'est passé au Bataclan, ça aurait pu être moi ou mes enfants. Comme si, quand c'était quand même les journalistes et les juifs, après tout de même, ils ne sont pas complètement innocents. Ils l'ont un petit peu. Et ce qui a vraiment bouleversé, c'est le Bataclan, parce que c'était, si je puis dire, n'importe qui.
Bertrand Badie, pour conclure sur cette première partie, elle est dans le sens de ce que indiquait à l'instant Dominique Schnapper. Delphine Horviller rappelait cette semaine que l'antisémitisme n'est jamais une haine isolée et n'est jamais que le problème des juifs.
Oui, et justement, c'est là qu'il faut insister, parce que moi, j'ai le sentiment, et cela rejoint beaucoup de choses qui ont été dites, que la société française ne sait pas regarder le racisme. Elle ne sait pas le nommer parce que elle en fait un comportement social malgré tout ordinaire, qui se dissout dans tout un tas de discours et de références. J'évoquais tout à l'heure, moi ça m'a profondément troublé, ces députés noirs que l'on voulait en quelque sorte exclure de la communauté nationale. Mais regardez, vous évoquiez la vague populiste, combien d'incidents, notamment une jeune femme noire à qui on a dit, parce qu'elle voulait pas s'arrêter un barrage, retourne dans ton pays, et quantité de choses de cette nature. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la nation française a quand même échoué sa construction politique, et reste quand même imbibée d'un référent identitaire et d'une espèce de culte en ses racines. Et il faudrait pas non plus, dans ce qui doit être désormais un combat fort contre toutes les formes de racisme, que l'on se défausse trop sur justement ces minorités qui en France seraient porteuses de virus racistes ou antisémites. La communauté musulmane, je suis d'accord avec vous, les statistiques ne trompent pas. Mais en même temps, je suis gêné quelque part que systématiquement on dise c'est à cause de la Palestine, des Palestiniens, de l'islamisme. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Tous ceux qui sont porteurs de ces genres d'attaques ne viennent pas de ces milieux, et on oublie aussi à quel point ceux-là sont victimes de discrimination au logement, à l'emploi, des moqueries. Moi, je me rappelle un comité universitaire de haut niveau qui se moquait de candidats, le jury entre eux se moquant de candidats parce qu'ils s'appelaient Mohamed ou Hassan, etc. Ça existe, ça aussi, dans la société française. Oui, ça existe.
Bertrand, on peut pas en faire un motif d'indulgence. On
mais
peut
non.
pas dire non,
mais c'est pas du tout ce que
je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais c'est ce qu'on pourrait comprendre. Mais je suis bien d'accord avec vous. Les discriminations à l'égard d'une grande partie des populations musulmanes sont scandaleuses, réelles, documentées, etc. Mais dans l'autre sens, on peut mettre ce mais. Il y a aussi l'antisémitisme dans ces communautés qui s'est développé et qui s'est développé à tel point que vous le savez très bien. D'ailleurs, il y a des juifs qui fuient la Seine-Saint-Denis aujourd'hui. Qui s'en vont, qui ne peuvent plus.
Les enfants juifs dans certains collèges ne sont pas en sécurité.
Je vais vous donner un exemple. Un ami, un exemple personnel, a des enfants. Ils sont juifs. Les enfants disent à leur père, papa ne le dit pas trop. C'est compliqué si ça se sait à l'école pour moi. Mais bon, donc tout ça existe. Et il n'y a pas de relativité dans cette discussion. Il faut le reconnaître et lutter contre. Et par ailleurs, on a des débats sur les discriminations, etc. Mais connecter les
non,
deux
pas
éléments...
Pas par ailleurs, Thierry Pêche. Si. Pas par ailleurs. C'est-à-dire, moi, je vais dans le sens de ce que vous disiez, qui était très juste, de dire il faut regarder les choses en face. Il faut que la société française se regarde en face, c'est-à-dire qu'elle ne se donne pas toujours la bonne conscience et le bon rôle en rejetant sur les minorités le poids de toutes ces horreurs. Ces horreurs, c'est des horreurs commises à l'intérieur de la société française et dans une histoire française. Alors effectivement, il ne s'agit pas, moi, en quoi aurais-je même excusé le début de je ne sais quoi. Non, au contraire, c'est le contraire que je plaide. C'est le principe même de la discrimination raciale et antisémite qui est absolument inadmissible. Ce n'est pas de se précipiter sur des facteurs pour dire, bah voilà, c'est ça qui... Non, c'est la société française qui est porteuse de ça. C'est la société française qui est responsable de l'indifférence que nous avons eue à l'égard de ces pauvres députés que l'on menaçait de mort parce qu'ils n'étaient pas blancs. C'est notre responsabilité. Et tant que l'on essaiera de se perdre dans des arcanes, et c'est ce qui est en train de se faire en allant chercher des rapports à quantité d'autres choses, on ne verra pas en face notre propre pathologie. C'est ça que je veux dire.
Alors nous sommes d'accord.
Ce que certains pourraient appeler aussi une sorte de concurrence victimaire, Dominique Schnapper.
Oui, ça fait partie, si je puis dire, ça fait partie du problème. À la fois, l'antisémitisme est très spécifique, et en même temps, bien entendu, il fait partie d'un ensemble de la société. Alors, quand on regarde les États-Unis, on est un petit peu moins sévère que vous, Bertrand, sur le rapport aux différents groupes, parce que finalement, nous sommes un pays d'immigration au même titre que les États-Unis, et nous avons mieux intégré les descendants de migrants, en tout cas jusqu'à une date récente, que les grands pays d'immigration, comme les États-Unis ou les pays d'Amérique du Sud. Alors, qu'il y ait des hostilités, des identités refoulées, critiquées, oui, bien sûr. Mais encore une fois, le problème, c'est quand ça devient un problème vraiment politique, quand ça structure la société politique. Et de ce point de vue-là, il faut, je crois, faire tout à fait la distinction entre les différents types de discrimination et l'antisémitisme qui remonte tout de même, qui est tellement constitutif des sociétés européennes chrétiennes. Moi, je suis toujours frappée par le cas indien ou chinois, où les juifs ont vécu là pendant un ou deux millénaires, sans histoire, sans production d'ailleurs, simplement comme une sous-caste du monde indien ou comme un coin de l'empire chinois, il se passait rien. C'est donc qu'il y a dans les populations de tradition chrétienne quelque chose qui est vraiment inscrit de façon très très profonde, et il faut pas le mettre sur le même plan, si vous voulez, que les discriminations envers telle ou telle population, qui sont des phénomènes qui sont beaucoup plus récents et peut-être moins structurants politiquement.
Toute petite conclusion. Ça veut pas dire
que oui, je crois qu'en fait nous sommes tous d'accord, c'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment avec cette espèce de libération totale de la parole, y compris dans ses aspects les plus négatifs, affecte provoque aussi des manifestations de racisme, de discrimination, d'islamophobie, etc. Ce qui nous inquiète ici, c'est que l'antisémitisme a une permanence permanence dans nos sociétés, voilà, en particulier européennes, à travers l'histoire. Il n'y a pas seulement le nazisme, il y a le communisme aussi, dans tous ces totalitarismes, enfin le complot des blouses blanches sous le stalinisme, la purge antisémite en Pologne en 1968. Enfin, c'est quelque chose qui, c'est un outil antidémocratique, et on revient à votre livre, à ce que vous disiez tout à l'heure. Si la société démocratique n'arrive pas à se défendre contre ça, c'est un symptôme très grave. Je pense que c'est ça qui nous inquiète tous.
Fin de cette première partie. Merci. Nous allons maintenant nous plonger dans les milliers de pages remplies en mairie par les Français. Depuis mercredi minuit, la phase de recueil sur les cahiers de doléances est achevée. Grand débat, la mi-temps.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Plus de 10 500 cahiers de doléances avaient donc été remplis depuis leur mise en place dans les mairies de France le 15 décembre dernier. Désormais, la Bibliothèque nationale de France allait conserver et numériser ces centaines de milliers de pages manuscrites rédigées par les Français ces dernières semaines. Une fois numérisées en photo, tous les fichiers seraient transmis à un autre prestataire qui aurait pour mission de les transformer en documents dactylographiques de manière à pouvoir faire ensuite les recherches par mots à l'intérieur. C'est alors que débuterait l'analyse des cahiers sur le fond, sous l'égide d'un cabinet de conseil chargé d'en restituer ensuite les grandes tendances et propositions et de les transmettre à la mission Grand Débat dans le courant du mois de mars. Fini donc le temps des cahiers de doléances, mais la fameuse plateforme du Grand Débat national restait, elle, encore ouverte jusqu'au 15 mars, qui serait également la date de clôture des réunions dites d'initiative locale. Commencerait alors, après le 15 mars, la phase délibérative, avec des conférences régionales, phase qui se voulait plus fouillée, centrée sur les thèmes prioritaires apparus dans la phase précédente, et la participation de citoyens tirés au sort. Enfin viendrait l'ultime étape, celle consistant à remettre dans le jeu les élus locaux, les parlementaires, corps intermédiaires et autres titulaires d'un mandat représentatif. Bref, on était à mi-parcours de cet exercice complexe de participation démocratique inédit qui prendrait donc fin mars en principe, avant restitution fin avril. Et le gouvernement indiquait déjà les chiffres suivants. 1,7 million de visiteurs uniques avaient été enregistrés sur la fameuse plateforme. 34% des propositions concernaient la fiscalité et les dépenses publiques. 25% la transition écologique. 21% l'organisation de l'État et des services publics. Et 19% la démocratie et la citoyenneté. Un grand débat majoritairement salué par les Français, lesquels se montraient en revanche méfiants sur les suites que le pouvoir en place lui donnerait. Le pouvoir qui commençait d'ailleurs à dire que le débat allait peut-être se prolonger au-delà du printemps, comme s'il fallait à tout prix éviter qu'il ne s'arrêtât, éviter l'heure de vérité. Voilà qui donnait envie de lire le dernier ouvrage du philosophe Pierre-Henri Tavoyot, « Comment gouverner un peuple roi ?», lequel analysait fort bien les risques de la démocratie délibérative, qui selon lui pouvait devenir soit le supplément d'âme de la démocratie, ce qui était un bienfait, soit se substituer à la démocratie représentative, ce qui était un péril. Nous en étions là, précisément, à mi-temps, à mi-parcours, entre espoir d'une démocratie qui pouvait peut-être encore se ressourcer, se retrouver, et crainte qu'elle ne se perde.
Je suis assez opposé à l'idée même de démocratie participative, je le dis très franchement, pour une raison très simple, c'est que une démocratie participative exige que les citoyens participent. Voilà. Alors ça peut marcher ponctuellement, c'est le cas aujourd'hui, il y a beaucoup d'attention, mais moi personnellement qui adore la politique, qui enseigne la politique, je ne suis pas prêt à passer mes week-ends et toutes mes soirées à participer à des réunions citoyennes ou civiques autour d'un certain nombre de questions. Et je pense que la majorité des Français est comme ça. Donc, si on installe des procédures de démocratie participative, quand la mobilisation civique baissera, ces institutions seront captées par des minorités actives et agissantes à laquelle je ne veux pas personnellement donner le pouvoir. Donc je préfère de beaucoup avoir des représentants élus que je suis libre de virer, si je puis dire, au bout de 5 ans, mais je ne veux pas qu'au quotidien, des gens se réclament du peuple pour imposer des décisions que je ne souhaiterais pas.
Voilà, vous venez d'entendre le philosophe Pierre-Henri Tavoyot dont je parlais à l'instant au micro d'Olivia Gesbert sur France Culture il y a quelques jours. Dominique Schnapper, vous qui avez consacré tant de temps et tant de livres à ce qu'est la citoyenneté, je pense par exemple aussi à la démocratie providentielle que vous avez publié en 2002, cet essai sur l'égalité contemporaine, qu'est-ce qui vous inspire cet exercice inédit de démocratie, ce grand débat national qui est donc désormais à mi-parcours? Vous êtes d'accord? Je vous ai vu sourire à ce que disait Pierre-Henri Tavoyot à l'instant.
Oui, En gros, je suis d'accord avec ce que dit Tavoyot. C'est-à-dire que la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie délibérative, renvoie à l'idée de démocratie directe. Or, l'idée de démocratie directe, elle est consubstantielle à la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'il y a eu tout le temps, on a été sensible aux limites de la démocratie représentative, et on a entretenu ce rêve de la démocratie directe. Mais les expériences historiques montrent que la démocratie directe n'a jamais fonctionné. Les Américains l'ont essayé avant de voter leur constitution, et dans la grande pagaille qui en est sortie, ils en ont conclu qu'ils étaient contre le mandat impératif et pour la représentation. Et nous n'avons pas d'autre idée que la République représentative. Donc, de ce point de vue-là, je suis tout à fait à voyou. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que dans la mesure où il y a une demande qui s'exprime de manifester des sentiments politiques ou des jugements politiques entre les élections, il est naturel qu'il y ait des canaux par lesquels elle s'exprime. Mais ces canaux, ils existent. Je veux dire, il y a des syndicats, il y a l'opinion publique telle qu'elle est mesurée, il y a les manifestations, et nous n'en privons pas. C'est-à-dire que entre les élections, il existe toutes sortes de moyens par lesquels peuvent s'exprimer. Alors qu'on ajoute des conseils délibératifs au niveau des quartiers pour régler la place des arbres, ça me paraît tout à fait satisfaisant. Qu'on fasse des conseils avec les étrangers qui n'ont pas le droit de vote, de façon à écouter leurs demandes particulières et qui participent à la vie collective, je trouve ça tout à fait souhaitable, à condition que tout ça se passe dans le cadre du respect des institutions de la République représentative, parce que l'histoire montre que c'est la seule qui a jamais fonctionné.
Thierry Pech, avait-il nécessité d'une respiration démocratique ? Et quel bilan vous dressez ?
Contradictoire, parce que je ne me retrouve ni dans ce que vient de dire Dominique Schnapper, ni dans ce que j'ai entendu dans la bouche de Tavoyot. C'est pas grave, tant mieux, ça rendra l'échange intéressant.
Vous voyez, le débat.
Deux choses.
Tout à fait pour le
des débat. Vertus du
deux,
débat.
Deux choses. Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Tous les citoyens peuvent concourir à la formation de la loi personnellement ou par leurs représentants. Personnellement. On retrouve, donc ça fait partie du bloc de constitutionnalité, y compris de la Ve République. Il est écrit dans la Ve République qu'il y a bien deux voies d'expression de la souveraineté populaire. La représentation ou le référendum. Bien. Donc, on a cet héritage historique. Alors, bien sûr, on va dire, oui, mais la Constitution de 93 n'a jamais été appliquée, etc. Bon, toute cette histoire existe. On dira aussi, le référendum, c'est le plébiscite, le bonapartisme, le césarisme, d'accord, mais c'est aussi le gaullisme. Bon. Et puis, on ajoutera que dans d'autres démocraties, parce que la France n'est pas la démocratie universelle, on pratique la démocratie directe, et qu'en général, d'ailleurs, dans ces régimes, l'usage et l'initiative du référendum n'est pas aux mains d'un chef plénipotentiaire, mais des parlementaires eux-mêmes. Alors que dans notre histoire, c'est un outil anti-parlementaire. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a bien dans notre histoire une case, une légitimité forte pour une démocratie qui ne soit pas que représentative, même si, dans la tradition de la culture politique française, la représentation a écrasé toutes les autres formes d'expression démocratique, peut-être plus qu'ailleurs. Deuxième point, la sociologie sur laquelle a grandi la démocratie représentative, celle des sociétés européennes de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, était une sociologie qui n'a plus rien à voir avec ce que sont les sociétés européennes aujourd'hui. Le fait représentatif s'est nourri de sociétés qui étaient très peu scolarisées et dans lesquelles le bon représentant, c'est ce qu'a très bien analysé Pierre Rosanballon dans sa première trilogie, le bon représentant était certes l'un des nôtres, mais c'était aussi un meilleur que nous. Quelqu'un qui allait parler et réfléchir mieux que nous, décider mieux que nous. Bon, cette idée dans des sociétés scolarisées, éduquées, indociles, et qui en plus pratiquent jour et nuit le fait d'approuver ou de désapprouver d'un clic, le fait de se compter dans telle attitude ou dans l'attitude contraire, ce fait représentatif est beaucoup moins intuitif. Il ne s'impose plus comme une évidence. Et donc il y a une demande très forte, mais qui est très forte depuis longtemps. Et là, elle surgit de façon extrêmement visible avec les Gilets jaunes. Mais je vous rappelle que le référendum d'initiative citoyenne a eu le soutien non seulement de la gauche autogestionnaire des années 70 et des écologistes, parce qu'on va trouver que c'était folklorique, mais de Valéry Giscard d'Estaing en 84. de Michel Rocard en 1995, qui n'étaient pas tout à fait des huluberlus, si j'ose dire. Bon, donc je crois que la question qui est devant nous n'est pas de dire c'est la représentation, et pour ce qui est de la démocratie directe et de la participation, quelques hochets avec lesquels on s'amusera gentiment pour, pardon Dominique, mais compter le nombre de platanes qu'il faut mettre au bord des routes, ou savoir, bref, des sujets oiseux. La question c'est comment on va articuler, sans la détruire, sur la démocratie représentative, des protocoles de consultation de la population, de délibération et de participation. Je crois qu'il faut prendre ces questions au sérieux.
Au fond, ce débat entre vous, Dominique Schnapper, et Thierry Pech pose la vraie question, à laquelle peut-être vous avez une réponse, Bertrand Badi. Est-ce que ce grand débat améliore la vie démocratique ou au contraire peut amener le peuple à vouloir se substituer au corps intermédiaire? Et c'est donc alors peut-être là que démarre ce que Tavoyau appelle la démocratie radicale?
Alors c'est comme le cholestérol, il y a le bon débat, il y a le mauvais débat, hein, c'est toujours la même chose.
La bonne participation et la mauvaise
exactement.
Participation.
Je pense qu'il y a quelque chose, moi personnellement, que je trouve très positif dans tout cela et qui n'est pas tellement souligné. C'est le débat en soi, c'est-à-dire pas le résultat du débat, mais le fait de débattre. Parce que nous sommes dans des sociétés qui sont quand même passées par des moments très forts de dépolitisation, de désintéressement à la chose, publique. Que l'on revienne à la chose publique, qu'on s'en saisisse, qu'on oppose des arguments contradictoires, ça c'est très sain, ça c'est très bon. On a quand même vécu très négativement, ça c'est le côté mauvais cholestérol, la fin des idéologies. Nous sommes passés très brutalement de sociétés hyper idéologisées, c'est-à-dire où encore, en gros, deux caricatures s'opposaient, à des sociétés où il n'y avait plus de débat, où il y avait une sorte de consensus mou. Moi, je trouve que l'essence de la démocratie, c'est quand même susciter la contradiction, montrer la pluralité des voix. Ça, c'est très bien. Après, c'est moins bien. Et après, j'ai un peu peur. Alors, je me sens entre vous deux dans ce débat sur la représentativité. Parce que je viens d'un établissement, on aime bien dire certes, mais...
les fameux plans de partis de Sciences Po.
Non, elle n'est pas du tout. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, il y a 1 million de copies qui ont été rendues. Nous sommes quand même un pays de 66 millions et quelques d'habitants. Que signifie... Ça fait déjà beaucoup à corriger, mais il y en a quand même beaucoup, surtout, qui n'ont pas rendu leurs copies.
Il y a 46 millions d'électeurs.
Et oui, d'accord. Même si on ramène à 46, il en manque 45.
Et 280 000 gilets jaunes.
Voilà, exactement.
Au plus haut.
Et 50 000 personnes dans la rue. Il faut quand même ne pas oublier ces ordres de grandeur qui nous montrent ce qu'est la profondeur de la démocratie. Mais surtout, il y a quelque chose, je crois que je l'ai déjà dit à cette antenne, parce que c'est une obsession chez moi, qui est une vision illusoire de la décision. Et c'est ça qui me fait le plus peur. Quand, ces cahiers de doléances, apparaît, si j'ai bien vu, 75%, si ce n'est plus, sont d'accord pour baisser la TVA. Mais quel est l'hurluberlu qu'il y a? Moi, je vous payais une TVA plus chère et plus lourde. Quand on dit on veut rétablir l'ISF, à partir du moment où on n'est pas visé, pourquoi ne dirait-on pas qu'on veut rétablir l'ISF? Et on pourrait ainsi continuer une foultitude de choses qui montrent justement là où la délibération démocratique n'est pas, ou même illusoire. La délibération, elle est démocratique à partir du moment où elle se saisit de politique et non où elle se saisit de décision. Décider s'il faut augmenter ou baisser la TVA, c'est antidémocratique parce que effectivement, vous allez réagir à l'instinct de conservation. En revanche, vous prononcez sur une politique globale, c'est-à-dire en gros, si on baisse la TVA, qu'est-ce qu'on va augmenter? Ou qu'est-ce que l'on va supprimer comme dépense? C'est ça la délibération démocratique, ouais. Et ça, alors, ce n'est pas du tout réductible au référendum. Moi, je suis désolé, Thierry Pech, même si je considère que Giscard d'Estaing et Rocard ne sont pas des hurluberlus.
On peut combiner les deux.
Le temps de la délibération et surtout le temps de la décision, en effet, en nous disant ce matin que nous sommes à mi-temps, mais on a pu entendre cette semaine, certains membres du gouvernement dire que finalement il fallait que ce débat ne s'arrêtât jamais, que maintenant qu'il était enclenché, il fallait qu'il continue toujours, comme si justement ce temps de la décision faisait peur, Sylvie Kaufmann, oui. Et que le gouvernement faisait en sorte de le retarder.
Je ne sais pas s'il fait peur, mais c'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile à formuler, à moduler et à résoudre. Moi, juste pour reprendre, donner mon avis sur ce débat passionnant sur le débat, moi je pense que ce moment était indispensable. formidable. Je pense que c'est formidable qu'il ait lieu. Je trouve que même si les 66 millions de Français ne sont pas présents, heureusement d'ailleurs, je ne sais pas comment on ferait, mais il y a quand même une participation importante qui montre une volonté de s'exprimer dans un projet collectif, de participer et de débattre. Alors quelquefois, je crois comprendre que quelquefois ça tourne un peu au dialogue de sourds, mais c'est très bien aussi, les points de vue sont exprimés. Il faut d'abord identifier et énoncer les problèmes avant de d'affronter la façon de les résoudre. Donc on est à ce stade-là. Après, la décision, c'est vrai, d'abord il y a ces difficultés logistiques immenses. Alors je suis très admirative de tous les procédés qui sont mis en place, c'est formidable, y compris l'intelligence artificielle et tout, bon bravo. C'est une expérience vraiment au sens propre du terme, c'est passionnant. Pour des chercheurs, je pense que c'est vraiment passionnant à observer. Il y a le problème de gestion du temps, parce que tout ça crée des attentes. On débat, on propose des tas de choses, et puis après, on veut des réponses tout de suite. Évidemment, il ne peut pas y avoir des réponses tout de suite, ou alors elles ne seront probablement pas sérieuses. Voilà. Mais il y a une demande de participation de projets collectifs qui, je crois, est porteuse d'un potentiel de refondation de la démocratie, parce que c'est de ça qu'on a besoin. On voit bien que notre modèle représentatif est en panne. S'il y a toute cette crise, et pas seulement chez nous, mais ailleurs, dans nos sociétés démocratiques, ce modèle est remis en cause. Les gens ne sont pas satisfaits, ils ne fonctionnent pas bien. Il faut trouver autre chose, ou l'ajuster, l'adapter, ou inventer autre chose. Voilà, comment refonder la représentativité, c'est bien ça la question. Je n'ai pas la réponse, bien entendu, sinon je ne serais pas ici aujourd'hui. Voilà, on sait que au gouvernement, à l'Élysée, on réfléchit, on est déjà en train d'étudier toutes les solutions, enfin toutes les hypothèses possible.
Vous pensez qu'on en est toujours au stade de l'hypothèse aujourd'hui à l'Élysée, il n'a pas été tranché de savoir si tout ça se terminerait par un référendum ou pas.
Je ne pense pas qu'on ait encore trouvé la. On pèse le pour et le contre de tas d'hypothèses. Je ne crois pas qu'on ait encore trouvé les réponses.
Dominique Schnapper, vous avez le sentiment en effet d'assister à un moment de refondation, non seulement de la démocratie, mais de la représentation. Et selon vous, comment tout cela va-t-il finir?
Je ne sais pas comment ça va finir, mais je voudrais juste dire un mot.
J'aime bien essayer de pousser les invités à jouer les Madame Soleil.
Aucune chance de dire un mot à la suite de ce qu'avait dit Thierry Pêche en disant qu'il n'était pas d'accord, avec moi. C'est vrai que quand la démocratie représentative a été inventée concrètement, il y avait une dimension démocratique, c'est-à-dire que les gouvernants sont sous le contrôle des gouvernés à l'occasion de la réélection. Puis il y avait une dimension aristocratique, puisque les élus étaient mieux que les électeurs sous un certain aspect. Ils étaient plus compétents, ils étaient plus riches, ils étaient plus... Et que avec la diffusion de l'éthos démocratique, cette dimension est de moins en moins acceptée. Donc l'idée même de représentation est de moins en moins acceptée. Et c'est pas seulement dans le monde politique. Je veux dire, les gilets jaunes ne veulent pas avoir de représentants, les ouvriers ne veulent pas que les syndicats les représentent. Et dans le monde politique, l'idée de représentation est critiquée bien au-delà même du monde politique. Et pourtant, nous n'avons tout de même pas d'autre idée. Et donc, ce qu'il faut imaginer, c'est à l'intérieur de ce cadre de la légitimité apportée par l'élection, parce qu'il n'y en a pas d'autre, comment faire participer ceux qui le souhaitent. Et les expériences qu'on a faites jusqu'à présent sur des enquêtes que vous connaissez comme moi ne sont pas très encourageantes, parce que effectivement c'est quand même les minorités agissantes qui se retrouvent. Et la seule façon de faire représenter également toutes les catégories de la population, c'est encore l'élection, parce que les 280 000 gilets jaunes ne représentent qu'eux-mêmes. Et pour représenter ceux qui, pour toute une série de raisons, ne sont pas dans la rue, il y a encore que l'élection. Donc, redonner le sens de la légitimité de l'élection, ce qui n'est pas du tout exclusif de toutes sortes de manifestations en dehors de celles qui sont prévues pour le faire.
Quand vous dites l'élection, mais quelle élection? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est le référendum?
Quand au référendum, il n'est pas anticonstitutionnel, il est prévu par la Constitution, vous l'avez rappelé.
C'est de la démocratie directe, vous me l'accorderez.
C'est de la démocratie directe. Il est mal pratiqué en Angleterre, et je crois que les Anglais ne vont pas y revenir de sitôt avec ce qu'ils ont fait. Il n'est pas pratiqué aux États-Unis. Bon, essentiellement, c'est les cantons suisses. Oui. Mais vous m'accorderez que c'est quand même une histoire particulière.
Non, c'est pas. Non, Dominique, le référendum est pratiqué dans de très nombreuses démocraties et ne se réduit pas à ces trois horizons. D'ailleurs, ensuite, je ferai observer à cette aimable assistance que seulement un référendum sur 10 se solde par un oui. Le corps électoral est assez conservateur, en réalité. On se fait peur avec ces histoires de référendum, d'initiative citoyenne, en disant, on va avoir une espèce d'inflation législative par voie directe. En réalité, c'est pas tout à fait ce qui se passe, y compris dans les démocraties, la Suisse, où c'est la chose la plus simple du monde.
Oui, mais c'est bon, ancré dans la tradition.
Mais je retiens le point que vous me rendez, c'est qu'il y a une fatigue du fait représentatif.
Ah bah ça, c'est
bon, c'est évident. Et que pour le moment, de votre côté, Dominique, on y répond seulement en disant oui, mais on peut pas s'en passer. Ça vous plaît pas, mais c'est comme ça. Je vous rejoins sur un point. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire autrement que par la représentation. On ne peut pas, par exemple, construire un budget, une loi de finances, autrement que par des représentants qui vont rechercher une cohérence entre de très nombreux sujets. J'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, je ferai observer également que très souvent, là où le référendum existe, voire le référendum d'initiative citoyenne, les questions fiscales sont laissées en marge et sont exceptées du champ de compétences de la loi référendaire.
Parce qu'il faut faire des choix aux dépens de certains, pour certains partout. Et aux dépens d'autres. Bon, si donc, tout le monde parle, ce sera aux dépens de personne.
Vous voyez bien que l'affaire est dans les détails, mais que sur les grands principes, la fatigue du fait représentatif va nous imposer d'ouvrir des voies de délibération collective, de participation et de consultation plus directes. Mais moi, personnellement, je pense que les référendums à froid, et on n'a pas besoin de l'initiative citoyenne pour faire des catastrophes dans ce domaine, vous avez rappelé le Brexit, mais pour moi, le TCE en 2005 était aussi assez catastrophique. Donc, quand l'initiative est censée être plus réfléchie, rationnelle, parce que prise par des élus et des représentants du peuple, eh ben, parfois, elle est déplorable. Quelle que soit l'origine du référendum, on a besoin de délibération avant de dire oui ou non. On a besoin de réfléchir, on a besoin de discuter, comme nous le faisons là, aujourd'hui. Et je pense que les gens dans une démocratie ne sont pas plus sots que ceux qui les dirigent, ils sont capables d'entrer dans la discussion aussi.
Rafraîchir notre démocratie représentative ou la faire respirer davantage, ça veut dire donc ce référendum à l'issue de tout ce grand débat, Bertrand Badi ?
Oui, plusieurs petites choses qui répondront à votre question. D'abord, c'est un peu rapide de dire le référendum, c'est la démocratie directe. Non, parce que le référendum, il est l'otage de la question qui est posée. Et elle n'est pas posée par la logique de la démocratie directe. Toute l'astuce souvent machiavélienne qu'il y a derrière la formulation de la question qui va donner une orientation au référendum. Et c'est la raison pour laquelle on est dans des sentiers extraordinairement compliqués.
Ça, c'est le problème de l'initiative, Bertrand. Ce que vous dites est vrai si vous confiez l'initiative au seul pouvoir exécutif. Mais elle est moins vraie si vous proposez...
Il faudra bien quelqu'un pour formuler les questions, Thierry. Il faudra de toute façon quelqu'un, une instance.
Mais l'initiative citoyenne, c'est justement la possibilité donnée, selon un nombre de souscriptions à recueillir, à tout le monde de poser une question.
Sachant que dans la dernière étape de ce grand débat est prévue une phase où on va remettre justement les corps intermédiaires dans cette histoire, alors, si j'ai bien compris, car le processus est complexe.
Deuxièmement, il faut repenser les corps intermédiaires. Il ne faut pas les abolir, il ne faut pas dire ça ne sert plus à rien. Il faut les reconstituer. C'est-à-dire qu'il y a une crise de confiance dans les partis politiques qui est peut-être la base même du mouvement populiste que nous connaissons actuellement.
Ça fait partie de la représentativité.
Ces médiations politiques n'ont plus la confiance. Ouais, troisièmement, je pense qu'il ne faut pas se moquer de la démocratie locale qui peut être alors une source de relance de la participation. Parce que dans la mondialisation, il faut employer ce terme toutes les 5 minutes, la mondialisation, sinon on est dans l'irréel. Dans la mondialisation, le local est restauré, contrairement à ce qu'on a pu penser. Et donc ça peut être un lieu de prise, d'exercice alors vraiment direct de la démocratie. Maintenant, pour répondre à votre question,
c'est très
la politesse le veut, d'abord, franchement, je ne vois pas du tout comment tout ce débat pourrait se cristalliser dans un référendum avec une question, la question d'or, en quelque sorte. Il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que je crois que vive le débat pour le débat, mais pas vive le débat pour enclencher une manœuvre politique.
Sylvie Kaufmann.
Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que le référendum, ça apparaît comme l'arme magique finalement, l'instrument magique parce que on est quand même très très perdu dans cette formulation de la rénovation de la représentativité. Mais c'est plein de risques et tout est. Le diable est dans les détails, comme on dit.
Dernière question en guise de conclusion pour Thierry Page et Dominique Schnapper. Vous avez le sentiment de vivre une démocratie vivante ou une démocratie malade, Thierry Page ?
J'avais dit à ce même micro, au moment où le grand débat s'est ouvert, c'est la fin du, du jupitérisme, cette idée un peu infantile, pardon, on se fait élire, on a le pouvoir, après on l'exerce, il n'est plus question de le légitimer. Le politique, c'est sans cesse la décision et la représentation au sens de la quête de la légitimité. Et l'idée qu'on aurait pu descendre de ce cheval pour transformer l'exécutif en simple instance d'exécution des décisions consacrées par le suffrage est une idée faible, une idée pauvre. Et donc c'est très bien que le président soit revenu dans l'arène, parce que je crois qu'aujourd'hui, dans nos démocraties, pas simplement en France, il y a une forte demande de proximité et de reconnaissance, de considération sociale. Et dans le débat, c'est ça qui se réalise aussi. C'est qu'on s'écoute. C'est les civilités de la vie démocratique qui s'illustrent, une forme de proximité. Donc c'est très bien qu'on y soit. Comment on va en sortir? C'est une autre paire de manches, mais je pense que c'est une leçon de démocratie qu'il ne faudra pas oublier. Sans doute faudra-t-il d'ailleurs poursuivre ces formes de délibération de façon un peu plus organisée et plus continue.
Dominique.
Moi, je suis assez inquiète sur la situation, parce que à partir du moment où tous les grands principes démocratiques sont remis en question, nous sommes dans une société tout de même très individualiste, et c'est pour ça que la représentation est en question, puisque quand l'individualisme pousse à l'extrême, c'est personne ne peut me représenter que moi-même. Et donc l'organisation collective devient extrêmement, extrêmement difficile, et ça absolument à tous les niveaux, c'est-à-dire que il n'y a plus d'acceptation de toutes les contraintes d'un collectif. Un collectif, par définition, ça impose un certain nombre de contraintes et elles n'apparaissent plus comme légitimes. Et donc ça me paraît une crise profonde, parce que c'est les principes mêmes, me semble-t-il, qui sont critiqués.
Merci beaucoup Dominique Schnapper d'avoir été dans l'esprit public aujourd'hui. Et puisque vient le temps des conseils de lecture, il faut relire bien sûr vos œuvres complètes, mais peut-être tout particulièrement le dernier, La citoyenneté à l'épreuve, la démocratie et les juifs, publié l'an dernier chez Gallimard. Et puis je citais aussi tout à l'heure le livre de Pierre-Henri Tavoyot, que vous avez beaucoup aimé aussi, je le sais, Comment gouverner un peuple roi, traité nouveau d'art politique, publié chez Odile Jacob. Votre conseil de lecture, Bertrand Badi?
Eh bien, moi, c'est une autre orientation, c'est une biographie que je vous propose, qui est absolument superbe, de Linda Haywood, Jinga, qui est une reine du Ndongo, et qui montre la résistance africaine à la colonisation portugaise. Ça montre qu'il y a une culture du politique en Afrique qu'on ignore totalement. Ce livre est formidable.
Rapidement, Sylvie Kaufmann.
Alors, sur notre premier thème, Delphine Horviller, réflexion sur la question antisémite chez Grasset, et elle mentionne ce livre que je voudrais que tout le monde lise, qui est très, très simple, Marceline est terrible, Marceline Loridan-Ivens, et tu n'es pas revenue.
Merci beaucoup, Thierry Pêche.
Bah, puisqu'on parlait de ça, j'avais pas prévu de vous parler de ce livre, mais lisez l'article de Raymond Carré de Malberg, publié en 1931 dans la revue de droit constitutionnel, qui devait s'intituler, si ma mémoire est bonne, « Considérations théoriques sur la conciliation du référendum et du parlementarisme ».
Merci pour ce conseil de lecture. Dominique Schnapper, ultime conseil.
On pourrait lire, pour revenir à la France en son sens le plus étroit, les deux livres sur la laïcité qui viennent de sortir, l'un de Philippe Reynaud, l'autre de Laurent Bouvet. Ils sont tous les deux laïcs, mais ils le sont de façon assez différente. Vous avez le choix. Moi, je suis en sympathie totale avec l'un, moins avec l'autre. Mais je trouve que... devinez. mais je pense que la lecture des deux met bien au point la discussion française sur la laïcité aujourd'hui.
Merci infiniment à tous les quatre d'avoir été nos visiteurs du dimanche. Merci à Marine Beccarelli qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission, à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui, Guillaume Ledu. Merci aussi à Gérard Courtois qui va me remplacer à ce micro la semaine prochaine. Il sera aux commandes de l'Esprit Public. Vous serez avec lui d'ailleurs, Bertrand Badi. Vous le saluerez de ma part avec Aurélie Filippetti, Dominique Régnier et Monique Cantos-Perber. Quant à moi, je vous retrouverai le dimanche suivant, c'est-à-dire le 10 mars. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Caroline Brouet pour Les Bonnes Choses. Caroline qui remonte aujourd'hui la chaîne du lait, des vaches laitières, salon de l'agriculture oblige, jusqu'au délicieux fromage de nos terroirs. Bon dimanche à l'écoute de France Culture.